Radio Foot International.
من قطر.
Qatar.
من قطر.
Welcome to the FIFA World Cup.
Annie Gasnier.
3, 2, 1. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International en cette fin d'après-midi puisque c'est un jour sans match. Première pause dans ce Mondial 2022 et l'occasion pour nous de revenir un peu sur cette compétition. Quel bilan peut-on déjà établir du niveau de jeu, bon ou pas, de la hiérarchie, bousculée ou pas, des équipes et des joueurs qui vous ont séduit, surpris ou même déçus. Et puis de l'ambiance aussi sur place, l'organisation, alors qu'il ne reste plus que 8 matchs. Eh oui! On parlera aussi de ce temps additionnel XXL qui prolonge certaines rencontres bien au-delà du temps dit normal. Quelles sont les conséquences pour les joueurs et pour le spectacle ? Les adieux d'Eden Hazard à sa sélection. Le capitaine des Diables Rouges met un terme à sa carrière internationale après un rendez-vous manqué en Coupe du Monde au Qatar. Que retenir de la star de Lille et de Chelsea qui joue toujours au Real Madrid ? Eh bien, invités dans ce studio, nos visiteurs de l'après-midi. Bonjour Ludovic Duchesne.
Salut, salut. Très en manque, il n'y a pas de match aujourd'hui, c'est très dur à vivre.
C'est drôle d'être en état de manque, là, tout d'un
coup. On s'habitue.
Bon, il faut s'habituer, surtout qu'il y en aura bientôt plus. Bonjour Jean-Philippe Bouchard.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être là, ainsi que Patrick Juillard. Bonjour Patrick.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Vous aussi, vous êtes en manque, messieurs.
En abstinence. Ah oui, en manque, mais heureusement, Radio Foot maintient vivant notre lien avec le Qatar et le Mondial. C'est bien quand même.
Ah, c'est pas mal, Radio Foot. Rachid Djebali, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Notre journaliste stagiaire, si heureux hier de voir le Maroc se qualifier. Aujourd'hui, on parlera avec lui notamment de Eden Hazard. Et puis nous rejoindrons aussi du côté de Doha, Frédéric Sutto. Laurent Salerno m'a aidé à préparer l'émission et David Finzel aussi. Radio Foot, c'est parti.
Radio Foot.
Radio Foot.
Football fans, tonight's opening World Cup attendance 67,372.
Welcome to the Algernon Stadium. Please proceed to the spectators' entrance. Pointed by a fellow partner. Thank you and enjoy the match.
Le soleil se couche tôt à Doha, mais il est aussi en train de se coucher sur la Coupe du Monde. La 22e édition durera encore 12 jours, mais déjà 56 matchs ont été disputés et il n'en reste que 8, peut-être les plus importants et peut-être les plus spectaculaires sont à venir. Les lumières des stades s'éteignent aussi une à une. On vous a parlé de ce stade 974 avec ses 974 containers qui est peut-être déjà en train d'être démonté sur le quai là-bas dans le port de Doha depuis le coup de sifflet final de Brésil, Corée et du Sud et les 5 derniers buts enregistrés dans cette enceinte. Quelle est donc l'ambiance du côté de Doha ? Est-ce qu'on sent l'odeur de l'écurie ? Eh bien, c'est la question qu'on va poser à Frédéric Sutto, l'un de nos envoyés spéciaux du côté de Doha. Bonjour Frédéric.
Bonjour, bonsoir Annie, bonjour tout le monde.
Oui, bonsoir. Salut. Pour vous. Il fait noir déjà, donc je ne me trompe pas du côté de Doha.
Oui, il fait noir. On a même eu un peu de pluie aujourd'hui, un temps orageux. Ça s'est couvert en début d'après-midi. Des grosses gouttes qui sont tombées sur la capitale qatarienne.
Oui, ça, assez inhabituel depuis le début de la compétition, hein.
Oui, parce qu'on a quand même, même si c'est l'hiver en ce moment, on a le soleil là qui tape durant toute la journée. Mais c'est vrai que, bon, vous y allez un peu fort quand même quand vous dites que ça sent l'écurie. quart, demi-finale, c'est la crème des crèmes, là, ce qui nous reste.
Bah, il reste 8 équipes sur 32 aussi.
Mais, vu comme ça, c'est vrai que vous étiez là, Annie, il n'y a pas si longtemps, pour la première semaine de la compétition. Et il y a des supporters qui nous manquent. Hein. Les Mexicains, ben, on n'en croise plus. Les Japonais, on ne les voit plus non plus. Les Équatoriens, les Camerounais, les Sénégalais. Dès que vous sortiez dans les rues, vous alliez au souk, que vous croisiez tous ces supporters du monde entier. Et c'est vrai que ça se resserre un petit peu. Et que forcément, oui, l'ambiance, ben, elle tombe aussi un petit peu. Aujourd'hui, il n'y a pas de match. Hein. Donc sur la corniche, là, c'est une journée presque ordinaire. On va dire pour le Qatar.
Une journée plage peut-être pour les supporters qui s'étendent un peu.
Est-ce non, que non, ça... mais on en a croisé, hein, parce que là, ceux qui sont en train de prendre le pouvoir au souk, notamment, ce sont les Marocains. Il y aura un petit reportage sur l'antenne demain matin, forcément. Alors la nuit a été très courte pour eux, vous imaginez, après la victoire face à l'Espagne hier, des petits yeux, lunettes de soleil, mais ils étaient là, ils dansaient, ils chantaient, enfin ils prolongent, et puis ils essaient de trouver des logements, faut se débrouiller, ils pensaient faire leur valise, et puis bah, on va rester encore quelques jours, au moins jusqu'à samedi avec le quart de finale contre le Portugal.
Frédéric, est-ce qu'on ressent aussi qu'il y a beaucoup moins de monde, par exemple dans le métro, hein, qui est une des grandes veines finalement qui alimente toute cette ambiance du côté de Doha ?
Bah, oui, forcément, et plus encore aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de match, Annie. Parce que les jours de match, c'est un chassé-croisé. On avait 4 matchs par jour au premier tour. 8e de finale, il y en avait encore 2. Donc il y a des stations d'interconnexion, là où tout le monde se croise. Vous aviez ceux qui revenaient des matchs, les supporters déçus qui avaient perdu, ceux qui chantaient, les Croates, l'autre jour, après avoir gagné la séance de tir au but. Et puis vous avez ceux qui partent pleins d'espoir au stade, oui, aujourd'hui, on n'a pas eu ces scènes-là, donc c'était un petit peu plus tranquille, effectivement.
Alors, Doha qui commence à prendre un rythme plus tranquille, un rythme de croisière peut-être. Est-ce que vous avez des questions, Patrick Juillard ?
Oui, Frédéric, bonsoir et merci pour la qualité de votre travail depuis Doha. Une question sur la présence des supporters anglais qui sont toujours les plus nombreux et les plus bruyants et les plus... enfin tout ce qu'on veut. Comment ça se passe au Qatar dans un pays où le choc culturel est grand pour ces supporters-là?
Eh oui, et on n'a pas le droit de boire d'alcool,
voilà,
à l'extérieur.
Vous avez compris, hein, mon allusion, à peine masquée.
Voilà, bah, complètement. Et, non, mais ils sont très discrets. Hein. On ne les voit pas plus que ça, les supporters anglais. Alors peut-être qu'ils se réservent, qu'ils vont tout donner, qu'ils vont tout donner samedi soir, hein, pour le crunch, le match face à l'équipe de France. Mais non, ils se sont fondus dans la masse et ils acceptent assez bien les règles de vie d'ici à Doha.
Et votre petite vedette, Frédéric Suto, de Metro Viswey, lui, c'est la belle histoire de cette Coupe du Monde, une des belles histoires en tout cas.
Ah, le jeune Kényan. Le jeune Kényan, effectivement, elle est géniale cette histoire. Et ce qui est encore plus fou, c'est que maintenant, tous les volontaires ont repris un petit peu sa gestuelle, les imitations qu'il faisait. Et j'entendais votre générique tout à l'heure. Ben voilà, dès que vous sortez, on vous indique Métro, 10 ouais. Radio Foot, 10 ouais. Patrick Juillard, 10
ouais.
Ouais, Non, mais ça amuse tout le monde. Et ces petits jeux, les supporters qui se filme avec les volontaires, et c'est vraiment devenu le tube de la Coupe du Monde.
Est-ce qu'il y a un bilan déjà dressé par les organisateurs ou par le grand organisateur, ordonnateur qu'est la FIFA autour de l'événement, selon vous, Frédéric ?
Non, enfin, il n'y a pas eu de conférence de presse, de prise de parole, en tout cas, pour faire ce bilan-là, mais d'un point de vue organisationnel, ça se passe bien. Au tout début, c'est vrai qu'on avait souligné match d'ouverture, notamment le stade, vous vous souvenez, oui, qui s'était vidé alors que le match Équateur-Qatar n'était pas encore terminé. On a rectifié le tir par la suite. Les stades étaient pleins. On ouvrait les portes quand c'était pas le cas pour permettre aux spectateurs de pouvoir entrer en cours de match. Non, le bilan, je pense que Gianni Infantino, ben on le voit de stade en stade, il aura le temps de le faire d'ici une dizaine de jours.
Il fait une mi-temps par stade et ça lui permet d'être partout, à Gianni Infantino. Alors nous, on va aussi dresser un bilan un peu plus général et sportif. Restez avec nous au moins au début, Frédéric.
Yalla ya Hakimi, yalla ya Hakimi, Yalla Ashraf, yalla Ashraf, 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 Ashraf.
Portugal à procura do mais um. Leva Rafael Leão.
It's 3-0. Oh, what a lovely finish from Bukayo Saka.
De fora da mapa pegou um petardo.
Lindo, 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 lindo.
Kylian Mbappé dans la surface, la frappe, le but de Kylian Mbappé.
Il y a encore de l'espagnol hein, dans cette Coupe du Monde. Mais elles ne sont plus que 8 équipes qualifiées donc en quart de finale. Les 8 meilleures sélections du monde ou du mondial, c'est selon. Rappelons donc leurs noms, Pays-Bas, Argentine, dans l'ordre de qualification. Hein. Pays-Bas, Argentine, France, Angleterre, Croatie, Brésil, Maroc et Portugal. Avec donc un intrus à ce stade de la compétition, puisque c'est sa grande première. Les Lions de l'Atlas qui disputeront le premier quart de finale de leur nation dans une Coupe du Monde. Il y a donc 5 Européens, 2 Sud-Américains et 1 Africain. Frédéric, votre coup de cœur ou votre coup de gueule, peut-être, je ne sais pas, vous qui avez suivi l'événement du début jusqu'à maintenant.
Sur quoi ? Sur les huitièmes de finale ? Sur plus généralement ?
Ouais.
Allez, j'ai envie de parler des Espagnols, on en a un peu marre du tiki-taka, le jeu de passe à 10, ça aurait pu durer 3 jours, ils n'auraient jamais marqué dans l'équipe de Luis Enrique.
C'est un coup de boule.
Je ne vais pas dire qu'ils ont récupéré ce qu'ils avaient semé, mais disons que ça marchait il y a 15 ans, mais ce n'était pas tout à fait les mêmes joueurs, on avait Iniesta, on avait Xavi, double champion d'Europe, champion du monde 2010 d'Espagne, mais hier, sans ne rien enlever bien entendu au mérite du Maroc, je crois que les Espagnols, ils se sont fait 1019 passes pendant la partie, contre 305 passes seulement pour les Marocains. Bon, bah, ça a suffi pour aller jusqu'au tir au but et pour s'imposer. L'Espagne, la Rora, va devoir se réinventer gagner.
J'ai l'impression que la Fédération Royale d'Espagne est d'ailleurs en train de s'en occuper. Merci beaucoup, Frédéric Suto, d'avoir été en direct avec nous dans Radio Foot International. On va continuer, nous, ici, à voir un peu de Paris notre bilan de la compétition. À très bientôt, Frédéric.
Merci, Annie. À bientôt.
Merci. Alors, 8 rescapés, je ne sais pas, on va peut-être commencer simplement, on verra après les coups de cœur ou les coups de gueule, hein, n'est-ce pas ? La hiérarchie, hormis le Maroc, bien sûr, hein, est-ce qu'elle est plutôt respectée, Ludovic ?
Si on met de côté l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, oui, mais quand même, on sent quand même un certain courant au niveau de certains pays, soit qui décline, soit qui confirme. Donc, qui décline, on pense à l'Allemagne, à la Belgique, et qui confirme, on a envie de dire la France, on a envie de dire l'Angleterre, voilà, on a envie de dire ces nations, Brésil éternel, bon, ça, j'en parle pas. Mais ouais, elles sont là, on a vu des belles surprises, on va en parler juste après, j'imagine, mais on a vu de très, très belles choses, de petites équipes, et c'est ce que moi, j'ai envie de retenir. Mais les grands favoris, oui, ils sont là.
Jean-Philippe ?
Maintenant, il y a plus que 8 grandes nations de foot. Donc forcément, quand on est en quart de finale...
Vous préférez 16 que 8 ?
Il y a des grands absents. Non, mais c'est vrai, les huitièmes étaient beaucoup plus ouverts finalement que ces quarts-là. On a un invité à mi-surprise qui est le Maroc. Mais sinon, beaucoup de gens ont coché les 7 autres équipes. Voilà, après, la question, c'est qu'effectivement...
On aurait exclu automatiquement l'Allemagne ou la Belgique ?
Pas forcément, mais il y a 8 places. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a peut-être une quinzaine de grandes nations qui, à chaque fois, méritent de figurer en quart de finale d'un tournoi final. Donc, en tout cas, de la Coupe du Monde. Donc, forcément, oui, il y a des absents. Il y en a qui s'étaient exclus d'eux-mêmes, comme l'Italie, mais... C'est vrai.
C'est la Macédoine qui les avait exclus. Voilà.
Mais du Nord.
Ils ont boycotté la Coupe du Monde avant, mais c'est vrai que ne pas avoir le champion d'Europe en quart de finale à la Coupe du Monde, c'est une petite anomalie quand même. Voilà, il y a des choses comme ça.
Champion en titre, en tout cas, pour une fois, ne subit pas les malheurs qu'ont subi les autres ces derniers temps.
Ouais, et pourtant, Dieu sait que si on était...
La France était peut-être avertie.
Sinon pessimiste, mais en tout cas inquiet il y a un mois avec l'avalanche de forfaits. Et même si ça s'est heureusement passé pour l'équipe de France. On voit qu'elle est encore sur un fil quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de réserves.
Oui, oui, ça, c'est ce qu'on a vu. Patrick Juillard, l'Afrique, finalement, le Maroc est là. Était-il vraiment au-dessus des autres Africains ? Est-ce qu'avant le coup d'envoi, vous vous disiez, s'il y en a un qui peut passer, c'est le Maroc ?
Alors, moi, je pensais que c'est l'équipe africaine qui avait le plus de chances de passer, c'était le Sénégal. Ouais, le Sénégal est passé. Le Sénégal a été à sa place, c'est-à-dire qu'il a fini, comme on s'y attendait, deuxième de ce groupe. Le Maroc, j'avais confiance en l'équipe, j'avais confiance en le coach, mais j'avais peur que dans un groupe avec la Croatie et la Belgique, si les deux équipes européennes étaient à leur niveau attendu, ça soit un peu juste pour le Maroc. Et finalement, ils ont profité de la défaillance belge, parce que la Belgique, on souligne son parcours éliminé de peu, mais ils doivent déjà sans doute pas gagner contre le Canada d'entrée. Ils doivent au moins, à mon avis, maximum faire match nul. Hein. C'est contre le cours du jeu, grâce à un arbitrage déficient, qu'ils arrivent à s'imposer. Et honnêtement, le Maroc monte en puissance. C'est ce qui est intéressant, c'est une équipe complète. Il n'y a pas de faille, en fait, et ça marche très bien. Le plan se déroule sans accroc pour l'instant. Ça encaisse très peu, c'est assez efficace sur ces quelques temps forts. Il y a, comme toutes les équipes qui vont loin dans cette Coupe du Monde, il faut qu'il y ait au moins un buteur de top niveau ou un créateur de top niveau. Le Maroc n'a peut-être pas un avançant de buteur de top niveau, mais il a Ziyech qui monte en puissance. C'est pas rien quand même. Et Boufal qui est pas mal non plus de l'autre côté. Donc ça fait déjà deux joueurs qui peuvent éliminer. Et c'est ce qui a manqué à l'Espagne. L'Espagne, si vous regardez bien, le collectif, c'est à peu près en place. Individuellement, les joueurs sont de bons joueurs, mais il n'y a aucun joueur qui prend l'initiative, qui va tenter un dribble, qui va tenter un décalage, qui va faire...
Les trois de devant ne sont pas titulaires dans leur club. Ça reste un vrai problème.
Voilà, et la Belgique, un De Bruyne et un Hazard ont été totalement transparents sur cette Coupe du Monde. Et Lukaku était à moitié blessé, donc il n'y a pas de mystère.
Jean-Philippe ?
C'est aussi ce qu'on a vu là, c'est aussi une réponse par rapport au système et aux organisations. C'est-à-dire que c'est bien joli, effectivement, d'avoir un système parfaitement bien huilé comme l'Espagne. Mais si on a si on a que Morata pour marquer les buts,
ça c'est un peu juste
sur le banc.
Voilà, c'est compliqué et c'est vain. Voilà. Et c'est un peu la logique par l'absurde, et peut-être qu'il faut être peut-être réaliste et s'adapter aussi aux joueurs qu'on a et au niveau des joueurs. Et il y a des sélections qui, elles, ont la chance, et dont la France fait partie, d'avoir des joueurs qui sont au-dessus du lot, certains joueurs au-dessus du lot. Et ça fait la différence dans des matchs très serrés.
Ludovic, la Croatie, elle est encore là, et on a l'impression de l'avoir avancée de nouveau comme 2018, c'est-à-dire un peu...
À bas bruit, masqué.
Alors à bas bruit, ouais. Et puis
avec des prolongations.
En étant un peu laborieuse.
Oui, c'est un peu le mot. C'est un peu le mot que j'utiliserais, que ce soit contre la Belgique où ils ont beaucoup souffert. La Belgique aurait très bien pu gagner et se qualifier. Il n'y aurait eu pas grand-chose à dire. Le Japon, pareil. Moi, j'ai beaucoup aimé le Japon. J'étais séduit par cette équipe. Donc la Croatie s'accroche aux branches. Là aussi, il manque un numéro 9 parce que c'est vraiment le point noir de cette équipe. Et Perišić, mais sur un côté, mais enfin, il fait quand même du bien.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça vieillit à tous les niveaux et
je trouve qu'ils ont bien renouvelé l'équipe parce que
relativement jeune,
pays de 4 millions d'habitants en fait
pas au milieu de terrain quand
basé
même, parce
sur
que...
un seul club, le Dynamo Zagreb, qui a fourni plus de la moitié des joueurs de la liste. Ils arrivent à sortir des jeunes comme Gvardiol en défense. Ouais, il y a Lovro Majer qui commence à rentrer un petit peu, mais Modric est dur à déboulonner. Hein,
on comprend.
Et il y a quand même des joueurs de qualité qui montent en puissance.
T'as raison, mais au milieu, c'est toujours les trois. Alors, Dieu sait si c'est le cœur en plus de cette équipe, Kovacic, avec Brozovic et Modric.
Il manque Rakitic par rapport à 2018.
Ça vieillit, moi, je trouve. Et voilà, donc ils s'accrochent aux branches, ils passent. Au tir au but, comme d'habitude, comme lors de la dernière Coupe du Monde.
Je ne suis pas sûr qu'ils emmènent le Brésil au tir au but.
J'aime bien aussi le fait qu'ils aient su trouver un gardien compétitif, parce que Subasic n'était pas simple à remplacer. Ouais. Et ce Livakovic du Dynamo Zagreb, il est... ils n'ont pas toujours brillé par la,
faut
leur
dire
gardien
que les Japonais
but,
les ont bien aidés, les gardiens.
Oui, les équipes d'ex-Yougoslavie n'ont pas toujours brillé par les gardiens de but, mais là, en l'occurrence, ouais, ils ont un très bon dans les buts. Donc moi, je trouve
qu'ils sont... Il a failli jouer à Montpellier, c'est dommage.
Ils sont coriaces, le Brésil devrait passer, mais je ne suis pas sûr que ça sera la balade qu'on attend.
Je pense qu'à ce niveau-là, on n'en est plus au niveau des balades.
Non, mais regardez Portugal-Suisse, personne ne pensait que le Portugal se baladerait comme ça. Ça peut toujours arriver.
Les Suisses non plus, d'ailleurs.
Les Suisses non plus.
Il y avait eu des malades chez les Suisses. On lit aujourd'hui qu'apparemment, il y avait un virus dans leur hôtel.
Ah bah, je comprends. Parce
peut-être
que
alimentaire.
Ils étaient diminués.
Et ils avaient notamment un ou deux joueurs essentiels qui n'a pas pu prendre part hier au jeu.
Et certains titulaires étaient diminués aussi.
Voilà, exactement. Et c'est peut-être pour ça. Là, il y a peut-être plus une explication que, par exemple, pour la Corée ou pour d'autres équipes. Jean-Philippe, est-ce que sur le niveau du jeu, c'est bon, moyen, on voit des, je sais pas, c'est différent, il y a une évolution notable.
Il y a une indication quand même sur le niveau moyen, c'est qu'il y a eu quand même des matchs avec des gros écarts, y compris en huitième. Donc ça, c'est quand même le signe de disparité et de forme et de niveau. Et ça, c'est une indication que le niveau moyen n'est pas super. Quoi, quand on a des,
voilà. En même temps, on a le carton de l'Espagne qui finalement se fait éliminer en huitième.
C'est spectaculaire. Bah oui, voilà, c'est ça.
C'est le premier match.
C'est spectaculaire, mais ça dénote qu'il y a des disparités quand même importantes entre les équipes et que même une équipe qui met 7-0 au premier match n'arrive pas en quart. Donc, voilà. Donc ça c'est un signe que le niveau n'est pas génial. Et ce n'est pas très étonnant parce que pratiquement aucune équipe n'a eu vraiment le temps de se préparer. Certaines sont arrivées avec zéro match amicaux avant. C'est très compliqué, mais ça explique par exemple le parcours de la Croatie qui s'appuie beaucoup sur un club, hein, et c'est le cas, une constante dans les sélections en Coupe du Monde, enfin dans les tournois finaux
en tout cas ceux qui vont loin.
Voilà, il y a eu l'Allemagne du Bayern, l'Espagne du Barça, enfin exact. Ça c'est
l'Égypte d'Al Ahly en Afrique.
Voilà, quand on s'appuie sur l'ossature d'un club, ça permet de gagner du temps quand même.
Exactement. Et il y a eu personne à 3 victoires. C'est assez rare quand même.
Exactement.
Moi, je suis moins négatif que Jean-Philippe. J'ai aimé beaucoup de choses, et notamment les petites équipes. J'ai trouvé que ça amenait de la fraîcheur. J'ai vu du jeu. J'ai bien aimé l'Arabie Saoudite quand ils ont battu l'Argentine. J'ai bien aimé le Canada, même s'ils ont fait 0 points.
C'est sympa, mais ça ne dénote pas un niveau de jeu au top.
Ouais, il faut relativiser, parce que, à part la Corée du Sud qui a sombré, mais c'était contre le Brésil. Le Sénégal, qui a été très, très décevant contre l'Angleterre. Après, c'était très serré. Donc, je ne parle pas de la Suisse. L'explication, à mon avis, elle est là. Mais toutes ces équipes-là, la Corée du Sud qui bat le Portugal, moi, je pense que, même s'il y a eu un niveau moyen, je pense que c'était très intéressant. Et j'ai surtout trouvé des équipes décomplexées qui se disaient qu'elles pouvaient, le Japon qui bat l'Allemagne, qui bat l'Espagne. Ça, c'est un peu nouveau, c'est un vent nouveau. La Tunisie qui bat la France, on a fait tourner. Ils ont été punis, les Français, mais il faut quand même les battre. Le Cameroun qui bat le Brésil, vous allez me dire que c'était l'équipe B, mais il faut battre le Brésil. Donc, c'est tout à leur mérite. Donc moi, j'ai aimé ce resserrement. Et en fait, des joueurs qui se disent « Non, mais nous, on peut arriver à les taper. » Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'était bien.
Ouais, moi, je trouve que ce qui est bien aussi, c'est que les équipes au plan de jeu caricaturaux sont balayées, en fait, dans cette Coupe du Monde. L'Espagne, qui incarne le football de possession 70% par match jusqu'à la caricature balayée.
Oui, ils détiennent le record, d'ailleurs, deux Coupes du Monde, 76 et 77% de temps
La Pologne, c'est l'inverse. C'était le football purement défensif, tous de double autobus balayé. Le Costa Rica, un peu pareil, que j'adorais dans les précédentes Coupes du Monde, mais là, qui est un peu une équipe à bout de souffle qui se bat avec ses armes limitées. Donc ça, c'est plutôt positif. Et l'Uruguay battu, condamné par le Ghana, ça fait quand même plaisir quand on repense à 2010, évidemment. Ça fait plaisir en pensant à la joie par procuration des Ghanéens, disons. Et ensuite, c'est ce qui est plutôt positif. Moi, ensuite, sur les troisièmes matchs, évidemment qu'on trouve sympa que le Cameroun ou la Tunisie gagnent une victoire de prestige. On ne peut pas s'empêcher de penser que les grosses équipes ont un peu faussé le jeu.
On a l'impression que là, elles ont calculé, effectivement.
En se crevant pas la paillasse, pardon pour l'expression.
Une question à chacun. Alors, ce n'est pas le jour des cartons, mais on va procéder un peu de la même façon. Mais quelle équipe vous a plu ou
équipe
fait vibrer
ou
joueur?
Ah, d'accord.
L'un ou l'autre. Allez, Patrick.
Allez, Jude Bellingham, le milieu de terrain anglais. Parce qu'avant ce mondial, j'avais quelques doutes sur la tenue de ballon de cette équipe anglaise et le... ce secteur-là du jeu, puisque Calvin Phillips, très bon à l'Euro, était un peu en difficulté en club. Et Bellingham, qu'on avait vu brillant avec le Borussia, dans un rôle un petit peu plus offensif, là, dans un rôle de relayeur un peu box-to-box, pour moi, il éclabousse de sa classe cette Coupe du Monde. Quel que soit le résultat de France-Angleterre, pour moi, c'est déjà presque un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde.
Jean-Philippe ?
Alors, c'est tout frais, mais je pense que le Portugais Ramos
est extrêmement épaté. Gonçalo Ramos.
Faut quand même un sacré caractère pour...
Un triplé pour son premier match titulaire.
Ouais, mais la pression de remplacer Ronaldo.
Ouais, voilà, il remplace Ronaldo qui est mis sur le banc et voilà, il a une pression quand même importante.
C'est la révolte de la jeunesse. Voilà.
Non, mais c'est
l'insouciance aussi peut-être.
C'est énorme d'avoir fait ce qu'il a fait quand même.
Ouais. Mais ça replace le Portugal sans doute sur l'échiquier des favoris. Hein.
Ouais, largement, ouais. Alors effectivement, les infos que vous nous donnez sur la Suisse, alors ça amène à relativiser un tout petit peu ce qu'a fait le Portugal, mais j'ai beaucoup aimé moi la qualité de jeu, la fluidité, la variété du jeu offensif portugais.
Oui, c'est avec Fernando Santos.
Et oui, mais ça prouve peut-être qu'il a,
exactement.
Il a su se régénérer, se remettre en question, et c'est tout à son honneur.
Oui, oui. Si je devais dire un joueur ou deux, je dirais Rabiot. Je le trouve totalement exceptionnel depuis le début de cette Coupe du Monde. Sans doute pour moi l'un des meilleurs joueurs de la compétition. Je pourrais dire Moussiala, qui n'a pas réussi à sauver... l'Allemagne. Et l'équipe, non, je dirais le Japon. J'ai vraiment aimé ce qu'ils ont fait depuis le début. Je trouve que leur élimination est très injuste, mais ça, c'est le foot. Mm-hmm. Mais sincèrement, c'était leur septième participation de suite à la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est un pays, je crois, sur lequel il faut compter. Et je pense qu'ils vont nous amener des bonnes surprises. C'est vraiment dommage. Ils méritaient, ils avaient tout pour passer. Pourquoi pas aller plus loin ?
Rachid Djabali, et vous alors ? Votre joueur ?
Moi, je vais rester fidèle à moi-même. Évidemment, c'est un joueur du Maroc. Hein, c'est Sofiane Amrabat. Qui hier, il a fait preuve de grande classe face à l'Espagne. Il a atomisé le milieu de l'Espagne. Il a vraiment maîtrisé Busquets, etc. C'était un joueur en plus qu'avant la Coupe du Monde était très critiqué. Donc franchement, je pense qu'il a fait taire les critiques hier et qu'il a su être au niveau.
Et ben voilà, on est international dans Radio Foot, évidemment. Alors une innovation dans ce Mondial 2022. Le chef des arbitres de la FIFA l'avait annoncé avant le coup d'envoi de cette compétition, mais sans doute n'y a-t-on fait attention qu'après. C'est ces temps additionnels interminables. Certes, les 5 changements depuis la pandémie du Covid nous avaient appris des suppléments de temps de 4 à 5 minutes en fin de match. Alors à la Coupe du Monde, on a l'impression qu'on y va fort, très fort, 10 à 12 minutes parfois sur chaque mi-temps, des rencontres qui durent donc plus de 100 minutes. Réécoutons celui qui fut donc un grand arbitre, l'Italien Pierluigi Collina.
Les matchs durent moins de 50 minutes de temps actif. C'est un fait qui dure depuis longtemps. Or, les gens veulent voir du football, plus de football. C'est comme assister à un concert. Vous êtes heureux et vous demandez un rappel au chanteur. Il est important d'offrir aux spectateurs du stade, à ceux qui regardent la télévision, un bon spectacle, un bon divertissement.
Alors, est-ce que ce temps additionnel vous surprend, Jean-Philippe Bouchard ?
Ah non, ça avait été annoncé de toute façon qu'il y aurait, du temps additionnel. Les arbitres ont appliqué les consignes. Et effectivement, on était habitué à ce que ça dépasse rarement 5-6 minutes maximum. Et puis là, on est allé au maxi jusqu'à...
Je crois que c'est 11, je crois, non ?
Ouais. On a largement dépassé les 10 minutes à plusieurs reprises.
Des fois, on a joué carrément.
C'est ça, jusqu'à un quart d'heure de plus. Ouais. Voilà. Donc, et je pense que c'est un peu la mise en place du temps de jeu réel. Quoi. On va passer... une prochaine innovation au foot. Il y aura sans doute des choses à faire. Mais maintenant, quand on peut penser qu'on on a jusqu'à 6 remplaçants en cas de prolongation, ou de blessure. Voilà, donc c'est plus de la moitié de l'équipe. Ça fait des arrêts de jeu. Enfin, voilà, et c'est aussi une façon de casser l'anti-jeu où on gagne du temps. Quoi.
Oui, surtout quand effectivement on a l'avantage. Ludovic, est-ce que les joueurs... alors, les ex-joueurs, en tout cas, on les entend du genre Eric Dimeco, disent... Comme d'habitude, la FIFA n'a pas consulté les joueurs. Donc les joueurs, en tout cas, eux, passent plus de temps sur un terrain. Est-ce que c'est préjudiciable pour leur santé alors que déjà on leur fait jouer plus de matchs dans l'année ? Parce que ça risque de faire tache d'huile, bien
le
sûr.
Le constat, comme ça, ce serait de dire oui comme ça, tout de suite, mais c'est vrai que maintenant, avec 5 changements, je trouve que ça change la donne. De quoi on parle, en fait? On parle de temps de jeu effectif, c'est-à-dire de temps de jeu réel, et je pense que ça fait du bien au football. Donc, en tout cas, pour moi, c'est un grand oui. Et on avait deux tendances. On avait Clément Turpin qui sifflait avant la fin du match. Et maintenant, on a ce vrai temps additionnel qui nous emmène jusqu'à un temps réel de football. Si on doit jouer 110, 115 minutes, avec 5 joueurs en plus, voire 6, pour moi, il n'y a aucun souci. Il suffit de bien gérer. D'ailleurs, vous parlez des joueurs, mais les entraîneurs qui se sont exprimés sont plutôt positifs.
Didier Deschamps, il disait, ouais, maintenant, on nous fait jouer 100 minutes. Je ne crois pas qu'il était trop content.
Didier Deschamps. Mais j'en ai entendu d'autres en Ligue 1, Frédéric Antonetti ou d'autres, ou Pascal Gastien, voilà, de Clermont, qui étaient très favorables à ça. Il faut voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, je trouve que c'est juste. Voilà.
Alors, c'est une bonne évolution?
Non, pour moi,
Patrick.
Non, parce que ça encourage l'arbitre à tenir compte de micro-arrêts pour prolonger artificiellement des matchs. Il faut faire preuve de discernement, c'est-à-dire que je suis d'accord que quand il y a des gains de temps vraiment flagrants, il faut en tenir compte, mais d'arrêter le jeu, le football, ce n'est pas un sport nord-américain, il n'y a pas de chronomètre. Je suis désolé. Et ensuite, j'ai paru aujourd'hui une étude dans le British Journal of Sports Medicine, pardon pour l'accent, disant que le football moderne augmentait considérablement le risque de blessures aux ischio-jambiers pour les joueurs à cause des calendriers, des cadences infernales, des calendriers alourdis. Donc si on rajoute, c'est la faute de la FIFA, tout ça. Si on rajoute des matchs et si on rajoute du temps de jeu, à la fin, bientôt, les footballeurs ne dormiront plus, ils joueront tous les deux jours. Je suis désolé. Et alors que, par contre, que les footballeurs s'organisent et refusent ça et parlent, prennent la parole. Oui, et ça, je pense que qu'ils ne le fassent pas sur les droits LGBT, c'est une chose, mais qu'ils le fassent au moins sur leur métier. Quoi.
Le temps de jeu réel n'est pas forcément un allongement des matchs, en fait. Enfin, de la durée des joueurs sur le terrain, quand il y a beaucoup d'arrêts de jeu, oui. Mais de la durée d'intensité de course effective, pas forcément. Mais peut-être que ça suppose une autre innovation à venir, c'est que ça ne soit plus l'arbitre central qui gère le temps. Puisque maintenant, on est passé outre depuis longtemps de cette règle qui empêchait toute évolution de l'arbitrage pendant longtemps, c'est qu'il fallait que tous les matchs dans le monde soient arbitrés de la même façon, avec un arbitre central et puis deux porte-drapeaux sur les côtés. On a changé ça. Il y a maintenant 4, 5, 6 arbitres vidéo, etc.
Mais d'ailleurs, quand
etc.
on voit le temps additionnel, je ne suis même pas sûr que ce soit l'arbitre qui le décide. C'est le groupe d'arbitres.
Oui, mais c'est toujours l'arbitre qui met le chronomètre.
Oui,
mais peut-être
qu'il
y aura prochainement un arbitre qui sera géré de maîtriser le temps de jeu et ça échappera à l'arbitre central.
Rachid ?
Moi, je pense que c'est une bonne chose. En fait, le fait que les arrêts de jeu soient bien plus longs, maintenant, ça offre 90 minutes de vrai spectacle. Par exemple, ça... Enfin, certainement, des fois, il y aura des matchs avec beaucoup de déchets, un peu moins de spectacles, etc. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que, par exemple, dans des finales, dans des matchs à qualification, etc., les joueurs vont commencer à perdre du temps en se roulant par terre. C'est le cas des hauts niveaux, souvent, ou de simuler des blessures pour gagner du temps. Maintenant, c'est quelque chose qui existera
plus. Mais c'était déjà pris en compte, ça.
C'était pris en compte, mais difficilement.
Jamais pris en compte. Ouais. Tu remarqueras que les équipes qui gagnent du temps, qui, en fait, elles gagnent du temps, et l'arbitre ne revient jamais sur ces temps gagnés. Là, je trouve que, voilà, il y a une justice. Vous voulez tricher, vous voulez gagner du temps, vous voulez faire du cinéma,
je trouve ça dangereux parce que
on va
demander aux équipes de jouer à une certaine vitesse et on va leur dire si vous jouez pas assez vite, on rajoute des minutes.
Comme on disait tout à l'heure, maintenant il y a les nouvelles règles dans la FIFA, les changements, etc. Ça permet de changer la moitié de l'équipe finalement. Donc on avance dans le temps, les entraînements.
Ouais,
les entraînements, ils vont s'adapter avec le temps de jeu aussi.
Mais
ils
ça,
vont pas faire
ça
exactement
aussi,
la même
je suis
chose.
Moi, pour moi, c'est pas positif les 5 changements parce que ça avantage les grosses équipes qui ont des moyens de se payer plus de joueurs.
Ça c'est vrai.
Donc genre Manchester City qui a deux équipes.
Toutes ces choses-là, en fait, sont faites avec un agenda caché par la FIFA sans consulter personne. Et le football subit ces changements. En
alors
fait. Et le public n'est pas d'accord.
Jean-Philippe,
réalité.
Est-ce qu'il y a un agenda caché aussi? Alors, par exemple, je ne sais pas, on ferait 3 mi-temps?
Ça fait un bout de temps que je n'ai pas mis les pieds à la FIFA, donc je ne peux pas vous dire.
Oui, mais vous
même
êtes
si
toujours...
Vu, même si j'en ai vu des membres
celui qui
hier,
sort les choses.
Ouais,
non, mais c'est-à-dire plus de publicité aussi pendant les matchs.
Bien sûr.
Bien sûr, et puis une Coupe du Monde tous les 2 ans. Et puis voilà, qu'il y ait une volonté de faire fructifier le produit football de la part de son organisateur.
Il y arrive bien, hein, Infantino.
C'est certain. Après, il y a aussi, il y aura des résistances et il y aura des voilà, C'est vrai que ce temps de jeu réel, ce temps additionnel très long, il n'a pas vraiment été expérimenté dans les petites divisions comme c'est fait souvent sur les innovations. Et ça, c'est dommage parce qu'on le voit, on le mesure lors du plus grand spectacle de foot. Donc moi, je suis plutôt assez favorable, tant mieux. Mais je pense que toutes les innovations à venir, on doit les tester avant et c'est ce qui est fait en général dans les équipes de jeunes ou éventuellement sur les tournois mineurs. Voilà. Et je pense qu'il faut en passer par là pour ne pas faire trop de bêtises quand même.
Eh bien, on observera ça et on verra si c'est un leg de cette Coupe du Monde, cette 22e Coupe du Monde. On continue. Trois sélectionneurs ont annoncé leur départ de leur poste après leur élimination, c'est mieux, de cette Coupe du Monde. Un joueur, lui, a annoncé sa retraite internationale. C'était ce matin.
He's better than Steve Gerrard.
Come on, everyone.
Alors, c'est une comptine de Noël, un peu en hommage, bien sûr, du temps où c'était un blues, ce Diable Rouge, et c'est Eden Hazard. Une carrière internationale de 14 ans, 126 sélections, et le capitaine de la Belgique a décidé d'arrêter l'aventure. Il l'a annoncé ce matin sur les réseaux sociaux. Une page se tourne aujourd'hui. Merci pour votre amour, pour votre soutien inégalable, pour tout ce bonheur partagé depuis 2008. J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête, vous me manquerez. Parlez-nous de ce joueur. C'est quand même une sortie en catimini, peut-être, Rachid.
C'est une sortie pas à l'image du tout de sa carrière avec les Diables Rouges. Il a raté sa Coupe du Monde avec la Belgique. Il a été éliminé en phase de poule. Il les avait rejoints à l'âge de 17 ans, 136 matchs, 33 buts, 36 passes décisives. En 2018, il a réussi à les emmener quand même à la troisième place, ce qui n'est pas rien. Et c'est le seul trophée, je crois, qu'il a pu leur apporter. Ensuite, c'est une sortie parce que c'est une fin de carrière aussi, même avec le Real Madrid. Il commence à avoir du mal. Il a très peu de temps de jeu.
On n'a pas beaucoup vu, surtout.
On n'a pas beaucoup vu. Il n'a pas du tout de temps de jeu. Il espérait se démarquer justement dans cette Coupe du Monde avec sa sélection, pour montrer de quoi il était capable, et ça n'a pas du tout été le cas, finalement.
Ludovic Duchesne, la sortie d'Eden Hazard annoncée, ça arrive souvent, après les Coupes du Monde, les grands internationaux, ouais. Il a 31 ans, si je ne me trompe pas. Alors, il y en a qui disent, il va avoir 32 ans, Zidane annonce ça à 32 ans, et finalement revient. Est-ce qu'on peut s'attendre à ça de la part d'Eden Hazard?
Ça, c'est son corps qui lui dira. Parce que moi, je trouve que... déjà, 31 ans, c'est extrêmement jeune.
Notre époque, oui.
Aujourd'hui. Donc,
demandez à Olivier Giroud.
Mais s'il avait annoncé aussi, il est revenu, il joue encore, et il marque encore, et il fait des différences. Ronaldo aussi, quand il est sur le terrain. Voilà, l'annoncer à 31 ans, je crois que ça fait quand même... depuis cette Coupe du Monde 2018, on l'a un peu perdu quand même, Eden Hazard. J'ai calculé, là, sur les dernières années, il a joué 18 matchs par saison. Et en plus, 18 matchs, pas à 100%. Parce que comme il est tout le temps blessé, eh bien quand il revient, il n'est pas à 100%. Donc, c'est des bouts de match, c'est des bouts d'Eden Hazard. Là, il est rentré à la 87e minute pour le dernier match de la Belgique contre la Croatie. Voilà, il était encore un peu blessé. En fait, il ne joue plus à son niveau. Il ne joue plus avec une forme digne de ce joueur qui était quand même exceptionnel. En France, on l'a vu, on l'a admiré avec Lille. Donc c'est presque logique. Il y en a d'autres qui vont l'annoncer, je pense, dans cette équipe belge. Il y a vraiment des joueurs assez vieux, maintenant, on peut le dire. Oui. Mais lui, c'est du gâchis pour moi, c'est du gâchis.
Jean-Philippe.
Non, mais il est à l'image de sa sélection. C'est qu'on a vraiment l'impression que c'est une fin de cycle et que ça ne sert pas à grand-chose
d'insister. D'ailleurs, la relève est prête. Voilà,
c'était important dans son message. Hein. Il le dit comme ça. En gros, lui, ça fait 3 ans qu'il galère et qu'à la fois en club, en sélection, il n'est pas à son niveau. Et je pense que c'est... j'ai employé l'imparfait, mais quand on a été ce joueur-là, ce joueur qu'il était.
On se souvient au LOSC.
Ça doit être d'autant plus difficile à vivre. Donc voilà, pour les années pro qui lui restent, il va peut-être se concentrer en club. Après, il va peut-être effectivement se relancer. Et puis peut-être que la Belgique aussi, il va se renouveler. Et n'oublions jamais que c'est en fait pas au joueur de décider, hein, c'est le sélectionneur qui décide. Donc,
mais on ne sait pas qui c'est là justement.
Ouais, voilà, mais en gros, c'est une façon de dire, moi je tire ma révérence, voilà, c'est les, voilà,
à vous.
À vous. Et puis après, moi, Eden Hazard qui revient à son top à 33 ans,
je pense qu'il peut encore être
sélectionné. Ça peut faire du bien.
Mais Patrick, on sentait quand même du côté de la sélection de Belgique, et je le répète, mais nous, nous sommes allés faire une émission là-bas, et il nous avait dit déjà, notre chance est passée pour ce qui est de la Belgique, justement par rapport à 2018. Les Belges, je crois, ne se racontaient pas d'histoire. Ils ne sont
pas
bien,
remis, d'ailleurs.
Mais ils sentaient que cette équipe, elle était plus aussi forte. Mais est-ce que on peut faire un parallèle puisque c'est l'heure avec Cristiano Ronaldo où finalement il y a un moment où même les sélectionneurs, il était capitaine toujours de ces Diables Rouges et peut-être que les sélectionneurs n'osent pas. Alors là, il rentre à la 87e minute, mais n'osent pas eux les mettre à la retraite.
Moi, je pense que Eden Hazard, c'est plus son transfert au Real Madrid qui pour lui a été une sorte de Graal personnel et qui a été en même temps une fin, plus de son, plus d'image pratiquement. Depuis, on compte sur les doigts d'une main les bons matchs qu'Hazard ait fait, que ce soit en sélection ou en club. C'est comme s'il avait atteint le but ultime de sa carrière. En plus, un transfert gratuit, enfin sans indemnité. Il était en fin de contrat, il arrive au Real. Extraordinaire. Il part magnifiquement de Chelsea. Et on a l'impression qu'après, c'est fini. C'est-à-dire qu'il s'est déjà mis presque en pré-retraite dans sa tête à ce moment-là. On l'a vu revenir avec du surpoids, comme s'il avait un peu somatisé ça en relâchant tout. Et moi, je trouve que c'est étonnant l'arrêt au sommet comme ça d'un joueur, sans déclin en fait. C'est-à-dire qu'il est passé d'un seul coup d'une fin de mandat assez remarquable à Chelsea à rien du tout. Et avec la Belgique, il n'a jamais pu se servir de la sélection comme d'un ballon d'oxygène, comme pouvait parfois le faire un Gareth Bale, qui était lui aussi totalement à l'écart au Real, mais qui, avec les Gallois, arrivait à tirer son équipe nationale vers le haut et y trouver lui-même de matière à se régénérer. Lui, il n'a pas su faire ça. Et puis la Belgique, la fin de cycle, elle est réelle. Le tort peut-être de Roberto Martinez, c'est d'avoir voulu avoir raison avec les mêmes joueurs que ceux avec lesquels il avait eu tort 4 ans avant.
Non, c'est beaucoup de sélectionneurs.
Alors qu'il y avait peut-être des joueurs à intégrer pour renouveler et aiguillonner les sénateurs un peu qui composent l'équipe.
Après, là, juste la comparaison avec Ronaldo. Non, alors là non, et mille fois non, puisque je pense qu'à cet âge-là, il était encore ballon d'or. Donc là, on ne peut pas, non, on ne peut vraiment pas.
Non, je parle sur le côté...
C'est l'inverse, c'est que Ronaldo a su faire durer son corps.
J'ai l'impression qu'au niveau du professionnalisme, on n'est pas du tout au même niveau. Là, donc, je pense qu'on ne peut pas comparer les deux joueurs.
Par contre, au niveau du talent...
Je ne comparais pas les joueurs, je comparais le temps dans la sélection. C'est-à-dire où un sélectionneur, finalement, alors on a cru, là, Fernando Santos est en train de nous démontrer le contraire, mais du genre, c'est indéboulonnable et c'est lui et les autres
Ronaldo
autour. Ouais. Mais en tout cas, parlons du Eden Hazard qui nous a fait rêver peut-être. Eden Hazard, c'est peut-être justement cette Coupe du Monde 2018. Alors, il y a des avis divergents entre le match contre le Brésil et le match contre l'équipe de France. Rachid.
Non, moi, je voulais revenir juste sur ce qu'a dit Patrick, par exemple, concernant en fait l'arrêt au sommet. L'arrêt au sommet, c'est pas vraiment lui qui l'a décidé, c'était suite à la blessure. En fait, c'est assez ironique parce que c'est son confrère qui l'avait blessé, Meunier, contre... dans le match Real Madrid-PSG, c'est clairement cette blessure-là qui a arrêté sa carrière, qui a signé l'arrêt de sa carrière, en fait.
Ouais. Donc, mais le moment où, alors avant qu'il ne soit blessé, Ludovic, entre ces deux matchs, on voit sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent que c'était contre la France, d'autres que c'était contre, où il était un maître à jouer, et d'autres contre le Brésil, quand ils éliminent le Brésil en quart de finale, et où on dit, c'est un peu comme Zidane en 2006, le Brésilien sur le terrain, c'était pas les Brésiliens, mais c'était Zidane ou Hazard.
Je pense que c'est vrai.
C'est deux meilleurs matchs, alors.
Et contre la France... les Français, les Français ont énormément souffert. Donc oui, c'était de toute façon, ça a été un très très grand joueur. Donc le regret qu'il peut avoir, mais il n'était pas tout seul. Par contre, je veux dire, il y avait une équipe de Belgique qui était à tous les postes, peut-être même supérieure aux Français en 2018. Et lui, oui, était vraiment au sommet, peut-être. Et c'est vrai que de ne pas l'avoir gagné. Mais le problème de Hazard, c'est qu'aujourd'hui, il est blessé. Donc Jean-Philippe disait à 33 ans s'il revient en pleine forme. Ben oui, mais non, ça fait déjà 3-4 ans qu'il n'est pas, il est blessé tout le temps. Donc il y a des problèmes avec lui. Moi, je ne le connais pas dans la vie privée. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas comment il s'entraîne. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au Real Madrid, ils n'en peuvent plus. Quoi. Ouais, ils ne peuvent pas payer un joueur une fortune. Il ne joue jamais.
Son contrat est jusqu'en 2024, mais il n'y a plus du tout d'espoir en fait, de renaissance. Là, il y a encore quelques supporters qui y croient, mais. Là, au Real Madrid, de la direction, plus personne n'y croit. D'ailleurs, les médias espagnols le renvoient déjà dès ce mercato d'hiver. Là, apparemment, il pourrait aller en Italie ou quelque chose. Et en vrai, moi, je pense que ce serait quelque chose de bien pour lui. Peut-être une renaissance dans une équipe où il aurait beaucoup de temps de jeu. Parce qu'à Madrid, il n'a pas de temps de jeu, mais c'est justifié. C'est justifié en attaque. Le Real Madrid, il y a beaucoup d'options.
Par rapport à l'ensemble des joueurs, effectivement.
Il n'a pas le niveau. Il n'a pas du tout le niveau.
Même si, en début de saison, à chaque fois, on s'est dit tiens, il y a hasard, au fait, dans l'effectif, peut-être. Que, hein,
ça fait 3 ans que c'est un marronnier, tiens, le nouvel hasard.
Voilà. Bah oui, mais comme le Real ne recrutait pas vraiment et tout, on se disait ça sera peut-être. Allez, c'est parce que.
Il finira par avoir du temps de jeu, mais non, en fait. Parce qu'au niveau athlétique, il ne peut plus être dans un club de haut niveau comme le Real. C'est plus possible.
Valverde qui est censé être milieu de terrain au début et qui monte en attaque. Il passe même après Mariano Diaz. En fait, quand on voit Ancelotti, il fait rentrer Mariano avant.
Ça fait mal. Quand même. Mais oui, c'est qu'il n'est plus vraiment un footballeur de très haut niveau. Bah. En termes d'exigence, physiquement, déjà, il n'a jamais compté sur son physique. Il comptait plutôt sur son art de l'esquive, sa technique. Mm-hmm. Et quand vous n'avez plus la tonicité pour avoir ça, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus rien. Quand vous le voyez, il n'en impose pas, hasard. Ce n'est pas comme Cristiano Ronaldo. Il en impose, quoi. Donc, il ne fait plus peur à personne. Et c'est un petit peu triste parce que c'est quelqu'un de plutôt accessible et assez nature, hasard. D'ailleurs, ça lui a joué un mauvais tour pendant cette Coupe du Monde quand il a un peu critiqué indirectement ses défenseurs en conférence de presse. La lenteur et l'âge des défenseurs. Bon,
d'ailleurs, ils se sont expliqués. On va pas parler de la Belgique, mais il y a une grosse explication à l'intérieur de cette équipe.
C'est un petit peu dommage. Après, moi, je garderai toujours le joueur du LOSC lors du titre, le premier titre du LOSC, c'était en 2011, si je ne me trompe pas, avec Gervinho, Hazard et Moussa Sow, le trident offensif inarrêtable.
Et Rudy Garcia sur le banc.
Oui, pour rejoindre Rudy Garcia aux Émirats Arabes Unis. Là, peut-être que c'est une fin de carrière qu'on peut lui proposer.
Pas impossible.
Mais franchement, il faut qu'il s'en aille du Real Madrid, parce que là, ça devient ridicule.
Ridicule.
Il n'y est plus quoi.
Arabie Saoudite, non ?
Ou Arabie Saoudite, mais en tout cas, où est Rudy Garcia ?
Qui veulent acheter aussi possiblement Cristiano Ronaldo. Selon certaines rumeurs, oui, voilà.
Il a encore de l'ambition, Cristiano Ronaldo, c'est la différence. Ouais.
Cette équipe de Belgique, vous dites, il y en a qui risqueraient d'autres de partir. Qui on imagine qui quitterait cette sélection belge ?
De Bruyne et Courtois, il y a des tensions entre les deux, il y en aura forcément un des deux.
Courtois a dit qu'il voulait rester.
Courtois, ça m'étonnerait pas qu'il reste.
Parce que là, j'ai un gardien, ça reste toujours plus longtemps. Pour un gardien.
Un gardien, ça reste toujours plus longtemps. Et c'est De Bruyne qui en veut plus à Courtois que l'inverse.
C'est derrière, c'est Vertonghen, c'est Alderweireld. On a envie de leur dire, ou alors faut mettre Théâtre, faut mettre. Non, maintenant il faut changer.
Ces joueurs-là,
il faut changer. Ça a été, à mon avis, le grand tort de Roberto Martinez. C'est que quand il s'est mis à 4 contre la Croatie, on a enfin vu une autre équipe de Belgique. Il a insisté plus que de raison avec ses 3 défenseurs. Oui. Même leur propre coéquipier disait qu'ils étaient lents.
Donc, c'est exact. Et puis ça forçait aussi à faire jouer dans un peu contre nature un joueur comme Ferreira Carrasco qui jouait piston défensif alors que c'est plutôt un ailier. Enfin, il n'est pas fait pour jouer à ce poste-là. C'est comme quand on fait jouer Coman en piston défensif. C'est du gâchis.
Les sélectionneurs, des fois, peut-être qu'ils n'ont pas le choix.
Non, mais sur un match, c'est normal, mais sur le long terme.
À la dernière question, vous avez 30 secondes et vous aurez un mot à dire. Quel est, selon vous, le favori vers la finale ?
Le vainqueur de France-Angleterre.
Donc, j'ai compris. Pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de failles dans le Brésil, donc le Brésil fait un peu peur à tout le monde quand même, je pense.
Ah, Ludovic, je vais pas être original. Je pense vraiment le Brésil.
Mm-hmm. Ouais, 6e titre. Oui. Et vous, Rachid ?
Pareillement, le Brésil, c'est ceux qui.
Pas le Maroc.
Rachid,
selon moi, j'espère que le Maroc se gagne. Ils vont créer la surprise, vous le verrez face au Portugal. Mais
bon. Eh ben, on observera ça avec attention et on pensera à ce qu'a dit Patrick Juillet entre l'Angleterre et la France. Merci beaucoup messieurs de nous avoir aidés à dresser un genre de bilan de cette 22e Coupe du Monde qui donc on a encore pour 12 jours hein, quand même, on a encore des matchs. Merci à tous.
Meilleur est arrivé.
Et rendez-vous demain.